au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Souvenez-vous de cet ordre au buisson ardent, à Moïse, juste avant de lui révéler « Je suis celui qui suis », qui est le cœur de l'Ancien Testament, c'est-à-dire « Je suis l'être incréé, le Dieu unique, éternel, transcendant, et qui en même temps prend soin de vous, mon peuple, et qui veut vous faire sortir de la servitude d'Égypte ». Avant de lui révéler cela, il lui demande quelque chose d'un peu curieux, il lui demande de retirer ses sandales. Il lui dit « Retire tes sandales, parce que la terre que tu foules en cet instant est sainte ». Alors ce n'est pas tant de la terre matérielle dont il s'agit plutôt de la terre spirituelle, du mystère auquel Dieu va faire accéder Moïse. Ça, c'est un mystère éminemment saint, l'identité même de Dieu. Je suis celui qui suis. Moïse n'a aucun droit d'entrer dans ce lieu, il n'a aucun droit d'entrer dans la connaissance de ce qu'est Dieu en lui-même. Alors il lui faut accepter ce petit geste, qui n'est pas grand-chose, mais qui est déjà beaucoup, ôter ses sandales. C'est-à-dire signifier qu'il accepte d'humilier son intelligence devant le mystère. Or aujourd'hui, mes amis, par cette belle fête de la Trinité, Dieu nous fait pénétrer plus avant dans son identité. Il nous en révèle plus qu'à Moïse au buisson ardent. Vous voyez un peu le privilège qu'il nous fait. Il veut se révéler non seulement en tant qu'il est celui qui est, il veut se révéler en tant que celui qui est trois. Je suis celui qui est trois. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, à plus forte raison que pour Moïse, Dieu nous fait cette supplication, « S'il te plaît, retire tes sandales ». Avant d'aller plus loin, il nous supplie de déposer les gros sabots de notre intelligence qui, souvent curieuse et souvent orgueilleuse, se laisse aller à croire qu'elle peut percer impunément et impudemment tous les secrets. Que nulle science n'est pour elle trop profonde, comme dit Molière, dans les précieuses ridicules. Nulle science n'est pour elle trop profonde. Il se moque des précieuses. Eh bien, notre intelligence est comme ça. Rien n'est trop profond pour nous. On arrivera un jour à connaître tous les secrets. Et bien sûr. Eh bien, Dieu, devant le mystère de la Trinité, nous demande de retirer nos gros sabots. C'est donc la tête courbée que nous devons entrer dans le temple de la très sainte Trinité. Parce que ce grand mystère, Jésus nous dit que son Père ne le révèle qu'aux petits. Il le cache aux savants, c'est-à-dire aux superbes, à ceux qui croient que leur intelligence leur permettra de percer tous les secrets du ciel. Il ne se révèle qu'aux humbles, il ne se révèle qu'à ceux qu'on appelle dans l'Ancien Testament les anawim, les pauvres, ceux qui mendient de Dieu un peu de connaissance de son identité, la Vierge Marie, Jean-Baptiste et d'autres. Mes chers frères, pour considérer le mystère des mystères, qui est la Sainte Trinité, il nous faut être très pudiques. Il nous faut être très discret et il nous faut être délicat, au moins autant que Dieu l'a été, délicat et pudique, dans la révélation du mystère de la très sainte Trinité. Et délicat, pudique, Dieu l'a été. Nous le savons bien, il suffit d'ouvrir la Bible. Il faut attendre l'incarnation du Fils, c'est-à-dire plusieurs millénaires, pour que Dieu se révèle en tant que Trinité, pour qu'il lève légèrement le voile sur ce mystère de la Trinité. Vous me direz, mais dans le Nouveau Testament, monsieur l'abbé, il y a quand même l'éthéophanie du Jourdain au baptême de son fils. On voit bien le Père et le Saint-Esprit qui apparaissent, et à la transfiguration, idem. Et encore en un autre lieu. Donc, il y a bien une manifestation claire et nette de la Trinité. Et ces Juifs qui n'ont pas cru sont coupables parce que c'était clair comme de l'eau de roche. Ben, bien sûr. Mais ces théophanies, elles se font sur un mode très discret. La personne du Père, pensez-vous, on entend sa voix seulement. La personne du Saint-Esprit, pardon, quand vous voyez une colombe, je ne sais pas ce qui vous incite à croire qu'il s'agit de la deuxième personne, la troisième personne de la Trinité. Quant au Christ, sa divinité n'affleure pas vraiment, ou plutôt elle ne fait qu'affleurer. Il faut attendre vraiment la résurrection et même la Pentecôte pour que ses apôtres comprennent vraiment qu'il est Dieu. Alors, vraiment, même dans le Nouveau Testament, je crois que le mystère de la Trinité n'apparaît qu'en filigrane. Et il faut s'accrocher avec confiance, avancer dans l'obscurité, sur les paroles de Jésus et sur les paroles de ses apôtres, pour pénétrer un peu ce qu'est ce mystère de Dieu un en trois personnes. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en même temps que ce mystère est en filigrane dans l'Écriture, en même temps qu'il est éminemment élevé au-dessus de nous, Dieu, par un phénomène étrange, veut le mettre à la portée des plus petits. Et il utilise parfois des outils très grossiers. Des outils très simples pour que ceux qui sont humbles puissent accéder au mystère de la Trinité, alors même qu'ils n'ont pas les qualifications requises pour faire de la haute théologie. Il utilise ce procédé récurrent, notre Seigneur Jésus, que celui des paraboles. C'est-à-dire qu'avec des images très simples, il fait verser à ses apôtres les réalités les plus profondes de la révélation. Il me semble que pour révéler le mystère de la Trinité de façon assez claire, il utilise ce moyen très simple qu'est l'iconographie. Je pense que la meilleure manière d'être introduit dans la Trinité, ce ne sont pas les discussions théologiques, ce ne sont pas les cours de catéchisme avec ses définitions, encore que tout cela soit très utile, ce sont les représentations picturales qu'on peut faire de la Trinité. Je suis sûr que vous connaissez tous cette icône fameuse de la Trinité d'une personne qui s'appelle Andrei Roublov. Roublov est un moine russe, orthodoxe, du XIVe siècle, qui avait des talents incomparables d'iconographe. Parfois, nous avons des reproductions de plus ou moins bon goût de sa Trinité. L'original, je vous l'assure, est fabuleux. Alors qu'il se demandait comment délivrer par le moyen de son art un enseignement aux Russes très simples et rustres qui étaient avec lui sur la Trinité, il a demandé au Saint-Esprit de lui inspirer ce qu'il pourrait faire, ce qu'il allait pouvoir représenter. Vous savez que l'orthodoxie interdit qu'on représente le Père, et l'orthodoxie interdit de même qu'on représente le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que tous les deux ne sont que pur esprit, et qu'ils n'ont pas été incarnés, ils n'ont pas pris chair, ils n'ont pas pris un visage. Donc, on ne peut pas les représenter. Alors, qu'allait-il faire, ce pauvre Roublov ? Il se mit en prière, et il se mit à jeûner 40 jours durant, et le 40e jour, voilà que le Saint-Esprit lui souffla cette idée très fine, ça ne vous étonnera pas, c'est le Saint-Esprit, il lui suggère à l'idée cette histoire d'Abraham. Abraham, et notamment un événement de l'histoire d'Abraham, la rencontre des trois personnages, des trois visiteurs énigmatiques du chêne de Mambré, et la tente de la rencontre. De quoi s'agit-il ? Abraham s'est vu promettre par Dieu une descendance, mais il a pris acte de l'infécondité de sa femme, qui est très avancée en âge. Sa femme ne peut lui procurer de descendance, alors que fait-il ? Suivant les coutumes païennes de l'époque, il va chercher la femme, la servante de sa femme, et il lui suscite une descendance, c'est la naissance d'Ismaël. Il croit qu'ainsi la bénédiction de Dieu est honorée, et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais voilà qu'un jour, trois personnes mystérieuses s'approchent de sa tante, et lui révèle que ce n'était pas du tout la volonté de Dieu que cette union avec Agar pour donner Ismaël, mais que c'est bien de sa femme Sarah, avancée en âge, inféconde, qu'il aura, moins d'un an plus tard, un enfant. Et ce qui est très surprenant dans cette scène, c'est que, en même temps qu'il leur parle au pluriel, cet Abraham, ce grand patriarche, en même temps il leur parle au singulier. Parfois il s'adresse à ses trois visiteurs au pluriel, parfois au singulier. Et lorsque ses visiteurs se sont retirés, Abraham comprend soudain qu'il n'était pas face à de simples visiteurs, ni même face à des anges, mais face à Dieu même. Vous voyez que cette scène est très étrange. Et c'est pour ça que Andrei Roublov, je reviens à lui enfin après cette petite digression, pour vous rappeler des choses que vous connaissez parfaitement, Andrei Roublov a pris cette scène, le Saint-Esprit l'a inspiré, il lui a soufflé de prendre cette scène des trois visiteurs pour représenter la Trinité. Et de façon extrêmement simple, j'espère que vous aurez l'occasion de jeter les yeux une nouvelle fois après ma petite homélie sur cette icône, et que cela va vous éclairer, mais vraiment, dans cette icône, apparaissent de façon très simple des détails, qui sont plus que des détails, des éléments fondamentaux sur la Sainte Trinité. Quand on regarde les trois protagonistes, on constate qu'ils ont exactement les mêmes traits. Les trois visages sont les mêmes, ce qui est, soit dit par parenthèse, une prouesse technique. Andrei Roublov, je vous le dis, est vraiment un as. Ils ont le même visage, aucun ne semble plus vieux que les autres, tous les trois sont imberbes, tous les trois tiennent en main une lance exactement semblable, en fait de lance, il s'agit d'un sceptre stylisé, tous trois sont pourvus d'une auréole identique, tous trois portent une paire d'ailes exactement semblables. On a l'impression ainsi, simplement en regardant ce dessin, d'une égalité parfaite entre ces trois personnages qui sont majestueux. Et Voilà. Deuxième chose, on a un sentiment, on éprouve devant cette icône, un sentiment paradoxal. C'est-à-dire que les trois personnages sont assis et semblent prendre la pose. Ils sont assis un peu en majesté, voilà, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, enfin voilà, on se croirait à Versailles, et on a l'impression, de ce fait, d'une certaine stabilité, voire même d'une certaine immobilité de la scène. En même temps, la légèreté des traits, les plis vestimentaires qui sont très fins, la prédominance des formes arrondies, les tissus presque transparents, notamment des deux personnages latéraux, les mouvements très gracieux des mains, et surtout l'expression des yeux. Vous fixerez ces yeux et vous verrez qu'ils sont très expressifs. On me dit que les icônes sont redoutables, qu'elles ne sont absolument pas expressives. Allez donc voir les yeux de la Trinité de Wroblew et vous y verrez des choses au moins aussi parlantes que notre belle peinture baroque. Voyez, tout cela donne la sensation frappante qu'au-delà de l'immobilité, en réalité, dans cette scène, tout n'est que dynamisme et tout n'est que vie. Troisième remarque, qui surgit à la simple constatation, au simple regard posé sur cette icône, on ne va pas plus loin, c'est pas plus compliqué que ça, une paix profonde émane de cette icône. C'est très surprenant. Les personnages ne parlent pas, ils ont la bouche close, mais leur regard s'interpénètre. Ce qui donne une espèce d'impression suave de communion, d'amour et de paix. Cette icône a le privilège de pouvoir apaiser, en quelque sorte, les personnes lorsque on tient cette icône dans le foyer. C'est très impressionnant. On n'a absolument plus envie de se battre, ni de médire, ni de quoi que ce soit lorsqu'on est en face de cette icône. Car enfin, la paix et l'amour transparaissent entre ces trois personnes. En résumé donc, un simple regard jeté sur cette icône nous fait prendre conscience de la majesté des trois, d'une parfaite égalité entre les trois, d'une scène à la fois stable, statique et parfaitement dynamique, d'une communion de paix et d'amour. En quelque sorte, il s'agit des caractéristiques fondamentales de la Trinité qui sont aux yeux de celui qui ne connaît pas trop sa théologie. Mais, et c'est ce qui est vraiment très impressionnant dans cette art iconographique, c'est que en contemplant, en regardant avec assiduité, avec patience une œuvre, petit à petit se dégagent des idées fondamentales de la théologie la plus orthodoxe qui soit, c'est-à-dire la plus catholique. Et c'est ce qu'André Wroblew veut faire, une sorte de catéchisme à travers son icône sur la très sainte Trinité. Pas besoin, encore une fois, de spéculation théologique, pas besoin d'avoir des diplômes, il suffit de se placer devant cette icône et on perçoit les caractéristiques fondamentales de la très sainte Trinité. Je ne dis pas que toute personne qui se retrouve devant cette icône spontanément adhère au dogme des trois. Je pense que l'icône de Wroblew est suffisamment répandue pour qu'on ait pu convertir le monde entier à ce rythme-là. C'est pas du tout ça. Il faut encore que la grâce vienne dans le spectateur et que le spectateur coopère à la grâce. Je dis simplement que cette icône met à la portée de tous la très sainte Trinité. Quelque chose, je vais un peu plus avant. Alors que quelque chose m'impressionne, alors que tout n'est qu'harmonie entre les trois, alors qu'ils semblent se suffire parfaitement à eux-mêmes, ils ont les regards posés les uns sur les autres, en même temps, l'observateur peut constater que leur table est ouverte. Le cercle des trois n'est pas fermé, mais il est ouvert. Et il est ouvert vers qui ? Mais il est ouvert vers nous, vers le spectateur. C'est-à-dire que délibérément, Wroblew a placé ses personnages face au spectateur. De sorte que le spectateur soit incité à entrer respectueusement en la présence de ces personnes et presque à s'asseoir à cette table. C'est un peu ce qu'on a envie de faire lorsqu'on se trouve devant la Trinité de Wroblew, grandeur nature. On a envie d'aller s'asseoir à cette table. Voyez, l'icône de Wroblew ne fait que rendre tangible une vérité profonde. La créature est appelée par Dieu à entrer en présence de la Trinité. Et le moine russe n'invente rien, il s'inspire, vous le savez bien, du livre de l'Apocalypse où on nous dit que les chrétiens sont appelés à entrer un jour au banquet céleste des noces de l'agneau. Le banquet des noces de l'agneau. Un petit détail pour revenir à l'icône de Wroblew. Sur la table est posé un calice. Au cœur de ce calice, quelque chose d'un peu informe qui, lorsqu'on l'agrandit, se révèle être un agneau. Et qui, lorsqu'on le tourne dans une autre position que la position spontanée, se révèle être le visage du Christ mort en croix. Vous voyez, nous sommes vraiment en présence du festin des noces de l'agneau et c'est le spectateur qui est appelé à entrer dans l'intimité des trois. Vous voyez ce qu'on peut faire avec une icône. qui n'est pas grand-chose, qu'un peu de peinture, un peu de bois et un peu d'or, on arrive à transmettre des messages fondamentaux et aussi profonds que celui-ci. Malheureusement, l'icône a ses limites en matière de pédagogie. Elle limite l'intimité à laquelle la Trinité veut nous appeler. Parce que l'Écriture nous en dit plus, les mystiques nous en disent plus. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir à la table des trois et de garder avec eux une relation extrinsèque, comme si on était l'un devant l'autre. Il s'agit de bien plus. Jésus le dit lui-même, Dieu veut aller plus loin. Celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous y ferons notre demeure. C'est-à-dire que Dieu, la Trinité même, veut venir en nous. Pas seulement nous inviter à un festin et rester extérieur à nous, entrer au plus profond de nous. Il faut comprendre qu'il ne se contente pas d'inviter le chrétien, mais il s'invite, il se propose de loger dans son âme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inhabitation de la très sainte Trinité, l'inhabitation des trois personnes divines. Les deux plus grands apôtres nous le disent également à leur façon, à la suite du Christ. Saint Paul nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Nous sommes le temple de Dieu, et Saint Pierre le dit « Afin que vous deveniez participants de la nature divine. » Je voudrais, rassurez-vous, je ne serai pas très long, enfin un petit peu, mais voilà, je voudrais quand même vous parler, parce que je pense que ça convient éminemment, de la petite Élisabeth de la Trinité. Je pense qu'on ne peut pas décemment envisager de vous parler de la Trinité sans vous parler d'Élisabeth de la Trinité, cette petite carmélite de Dijon qui a eu la grâce de comprendre d'une façon particulièrement prégnante quelque chose du mystère de la très sainte Trinité. Et je cite quelques-unes de ses paroles. « Mon maître veut habiter en moi avec le Père et son esprit d'amour pour que j'aie société avec eux. » Ma vie, en fait, a basculé. Elle était jusqu'alors dans la crainte de Dieu, mais une crainte un peu servile. Sa vie a totalement basculé, elle est devenue la grande sainte que l'on sait, lorsqu'elle a saisi que la très sainte Trinité ne s'appréhendait pas tant en scrutant le ciel et en essayant de s'élever vers la Trinité, mais plutôt en se retournant au fond de son âme où habitait la très sainte Trinité. Vous voyez que là, on est dans une relation à Dieu qui est beaucoup plus intime. Dieu n'est pas dans un ciel complètement improbable, auquel de toute façon nous n'arriverons jamais à parvenir. Dieu est au fond de mon âme, saint Augustin, plus intime à moi-même que moi-même. Ça, ça a changé la vie de notre petite Élisabeth, et elle a des paroles qui sont bouleversantes. Nous n'avons pas à sortir de nous pour le trouver. Il faut quand même être gonflé. Nous n'avons pas à sortir de nous pour le trouver. Le royaume de Dieu, avec les trois, est au-dedans de nous. Dieu entre en nous. Et, incroyable, il poursuit en nous la génération éternelle du Verbe et il poursuit en nous l'aspiration éternelle amoureuse de l'Esprit-Saint. Dans chacun d'entre vous, en modèle réduit, si j'ose dire, se produit ce qu'on voit sur la Trinité de Wolof, et ce qu'on voit imparfaitement. La génération éternelle du Fils et l'engendrement par le Père et le Fils du Saint-Esprit. Pardon, je trouve ça proprement bouleversant. Et voilà ce qu'est la vie chrétienne. Si vous êtes pris de doute, si vous vous dites que je suis un peu panthéiste sur les bords, si vous pensez que la petite Élisabeth est très gentille, mais que finalement c'est une jeune fille, peut-être un peu émotive à force de privation de pain et de sommeil, eh bien, je vais citer quelqu'un qui n'est pas, qu'on ne peut pas taxer d'hétérodoxie, vraiment, c'est le saint curé d'Ars. Le saint curé d'Ars, que dit-il ? Une phrase choc, très simple. Notre âme est un petit ciel où réside la très sainte Trinité. Ça me paraît clair. Ce qui nous gêne, en fait, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous gêne en même temps. Ce qui nous gêne, qui nous empêche d'adhérer pleinement à ce mystère de l'inhabitation des trois en nous. Parce qu'on se dit que c'est des figures, c'est une façon de parler. Non, non, c'est concret, c'est ontologique. C'est métaphysique, c'est réel. La Trinité descend en nous. Mais ce qui nous empêche d'y adhérer, c'est, une conception un peu vétérotestamentaire, un peu ancien testament, d'un Dieu tout autre, qui répugnerait absolument à venir parmi ses créatures. Alors, mais écoutez, je crois que ce verrou a sauté avec l'incarnation du Fils. Le Fils n'a pas dédaigné, comme nous dit saint Paul, lui qui était de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il prit la condition de serviteur. Il s'est incarné en lui, se sont mixés, et pour l'éternité, la nature divine et la nature humaine. Alors, je ne vois pas ce qui empêche que les trois viennent en nous. Et puis, peut-être avons-nous aussi une conception trop matérielle de ce Dieu, c'est-à-dire qu'on se dit, mais si Dieu descend dans la créature, et vient dans chacun d'entre nous, tous les trois, et y demeure, mais le ciel sera vide à force. Dieu va comme se vider comme un liquide et passer dans un autre récipient. Mais là, nous avons une vision panthéiste ou une vision matérielle de Dieu. Dieu est à la fois parfaitement au ciel et parfaitement en nous. Dieu n'est qu'esprit. Donc Dieu peut ce genre de prouesse. Pour conclure, je voudrais insister sur le plus beau de tout cela et je voudrais me servir du cardinal Journet. Charles Journet était un thomiste vraiment de très grande valeur, qui est mort dans les années 75, et qui était un grand contemplatif en même temps, et qui a eu des phrases fabuleuses sur la très sainte Trinité et sur l'inhabitation des trois personnes en nous. Que dit-il ? Dieu, dans l'inhabitation, est accueilli dans l'âme, plus seulement comme créateur, mais comme hôte et comme ami. Comme ami. Et il détaille. Or, l'amitié suppose l'égalité, un échange mutuel réciproque. Donc, Dieu veille à permettre à l'âme créée d'être dans un certain rapport d'égalité avec lui. C'est proprement incroyable. Non seulement la Trinité vient en nous, mais en plus, elle veut être notre amie. Et puisque l'amitié requiert une certaine égalité, Dieu, sous un certain rapport, va jusqu'à nous rendre égal de lui. J'ai dit, vous êtes des dieux. On voit ça dans l'Écriture sainte. Nous sommes appelés à la divinisation. On voit ça dans l'Écriture sainte. C'est, je crois, des phrases qui doivent nous captiver et qui doivent nous amener à une plus grande contemplation de la Trinité. Je reprends la parole après cette citation du cardinal Journet. Tout cela, mes frères, n'est pas pour demain. J'y insiste souvent dans mes sermons, dans mes homélies. Ils sont sans doute longs, mais bon, j'espère que vous pouvez parfois faire votre miel. Tout cela n'est pas pour demain. Tout cela est pour aujourd'hui. Jésus le dit à Zachée. C'est aujourd'hui que je veux demeurer chez toi. C'est-à-dire que la Trinité vient dès aujourd'hui. Bien sûr, tout cela sera consommé dans la patrie, dans l'éternité, mais c'est aujourd'hui que cette union intime avec la Trinité est possible. Voyez un peu le mystère fabuleux auquel nous sommes introduits en méditant sur la Trinité. Je vous laisse vous nourrir de tout cela et je demande à celle qui a été le temple par excellence de l'Esprit Saint et des Trois, la Vierge Marie, parfaitement cristalline, on dit transparente de la Trinité, eh bien le soin de vous souffler, de vous chuchoter à l'oreille, mais surtout à l'oreille de votre cœur, tout ce que nous venons de voir peut avoir de magnifique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.